Cette semaine, transformez 1000 idées par minute en réalité. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, on va à la rencontre d'un pratiquant d'Outils du Manager qui s'appelle Martin Goebel et qui est le boss d'Overdrive. On verra comment il faut s'entourer quand on a 1000 idées à la minute. On verra comment transformer une idée en réalité grâce au management. On verra aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire la manière dont Martin a intégré le modèle DISC dans son entreprise pour la rendre plus adaptable, plus résiliente et plus accueillante pour ses collaborateurs. On verra aussi comment Outils du Manager a, selon Martin, sauvé Overdrive pendant le Covid. On verra les journées idéales de Martin et on verra aussi le deal qu'il a passé avec ses collaborateurs qui est le suivant: je m'occupe de ta carrière et tu fais le maximum. Bonjour Martin.
Bonjour Cédric.
Comment ça va ?
Pas mal, pas mal.
Alors je sais pas dans quelle région tu es.
On est basé à Bordeaux.
À Bordeaux. Bon, voilà. Donc il fait beau, c'est pas la peine de te le demander. Alors peut-être que ce qu'on peut faire pour démarrer, dans un premier temps que tu te présentes, puis que tu nous dises quelle est ton activité professionnelle, puis après on rentrera dans le vif du sujet qui est le management.
Ok. Je m'appelle Martin Goebel, j'ai 44 ans, j'ai créé il y a 11 ans Overdrive. Overdrive, c'est une société d'environ 35 personnes spécialisée dans l'ingénierie et le management de projets immobiliers, industriels et d'infrastructures. En gros, on garantit la maîtrise des coûts et des délais des projets pour nos clients. On est basé sur le territoire national avec quelques projets à l'outre-mer et l'international. On fait un chiffre d'affaires de 4,5 millions à peu près.
Et tout le monde est basé au même endroit ? Vous êtes tous au même endroit ou bien est-ce qu'il y a du travail en télétravail, etc. ?
On est présent sur tout le territoire. On a du télétravail à Lens, à Paris et à Toulouse.
D'accord, ok. Et au niveau structure, tu as une hiérarchie ou tu as tout le monde en direct ? En gros, ton organigramme, il ressemble à quoi ?
Donc j'ai deux bras droits, deux directeurs et après un chef de service par service.
D'accord, ok. Deux bras droits, c'est pas mal. C'est mieux que deux bras gauche. Ok. Alors, il y a une originalité chez toi, puisqu'on a discuté un petit peu, c'est que en fait, j'ai vu que tu avais pris pas mal de formations, mais ce que tu m'as dit, c'est que ce sont des formations que tes collaborateurs ont suivi, donc ça m'intéresse un petit peu de creuser ça, parce que en général, quand j'interviewe quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un qui a pris une formation pour lui, et il me parle pas du fait que certains de ses collaborateurs aient suivi ou pas des formations Outils du Manager. Donc je vois que tu m'as dit que tu nous connaissais depuis un moment, hein, depuis 2011, je crois.
Oh, quasiment depuis le début, depuis la création de la boîte, oui.
D'accord. Ah, ouais. Ah oui, ta boîte, elle a été créée en 2011, d'accord.
2010. Et voilà, le temps de faire quelques papiers. 2011, je me suis mis à travailler.
D'accord, donc t'es passé t'étais tout seul au début ou...
Oui.
Ouais, c'est pas mal. Donc, belle croissance quand même en termes de nombre de personnes. 2011 jusqu'en 10 ans, c'est pas mal.
Ouais, merci.
Faut réussir à structurer au fur et à mesure, quoi.
C'est exactement ça. Quand on a une idée, qu'on trouve une formule subjective, de bonnes intentions, le ramener à l'objectif est très important. Je peux témoigner d'une agence créée il y a 11 ans qui a misé une grande partie de sa stratégie sur la construction d'un collectif à partir d'une idée, d'une intention subjective. Et pour la transformer en réalité, on doit passer par l'objectif. Le regroupement d'un collectif fédéré autour d'un management moderne et équilibré a été essentiel pour cette transformation objective. Le management est le lien qui permet de réunir des personnes qui n'ont a priori pas grand-chose en commun, chacun avec ses forces et ses faiblesses. L'idée d'être dans la continuité de la progression avec un début et une fin a été de déléguer le management à des personnes voilà, qui sont en charge de ce management. Et elles ont un accès, si tu veux, à toutes tes newsletters, tes formations, avec un libre choix de les acheter et de les suivre.
D'accord, ok. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que ce sont elles qui les financent ou bien c'est toi qui...
Ah bah non.
Bah parce que figure-toi que j'ai beaucoup de gens, en fait, je te demande ça parce que ouais. j'ai beaucoup, beaucoup de... L'infinie majorité des personnes, en fait, financent leur formation elles-mêmes, en fait.
Ouais, je trouve ça assez étrange. C'est une formation, c'est un très bon investissement.
Ouais.
Donc moi, les deux directeurs ont un accès libre, mais aussi les chefs de service. Et en gros, toute personne à l'agence qui a besoin du système d'organisation réaliste, par exemple, je dis jamais non. Moi, je trouverais très étrange de faire un chiffre d'affaires de 4,5 millions et de refuser une formation à un collaborateur.
Ouais, ouais. Oui, puis après, bon, bah, c'est aussi souvent, très souvent, en fait, les clients, entre guillemets, d'outils du manager, c'est des gens qui ont envie de s'améliorer eux-mêmes. Et c'est assez, de manière assez indépendante, en fait, de leur employeur. Après, effectivement, comme toi, je suis persuadé qu'il y en a, il y a quand même pas mal de gens qui ouvrent la porte ensuite à leurs collaborateurs.
Exactement.
Et donc, en fait, toi, en termes de management, qui tu manages directement? Tes deux directeurs?
Oui, oui. Et ouais. Ils ont de plus en plus d'autonomie. Voilà, c'est vraiment des piliers de l'entreprise. Ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Donc, en gros, on a un deal entre nous. Ils travaillent pour l'entreprise et moi, je m'occupe de leur carrière. Je les fais progresser sans cesse.
D'accord. C'est pas mal, c'est intéressant. Et toi, tu as d'autres rôles de l'entreprise que dans l'entreprise, pardon, que celui-là? Tu fais du commercial ou bien tu es l'ingénieur ou bien...
Alors, plutôt le commerce, des grands comptes.
D'accord.
Le développement aussi, j'ai mis l'idée à la minute. Et le temps de faire le tri et de les ramener au concret, voilà, je pense que je participe à ça.
D'accord. C'est intéressant. Donc, toi, tu es plutôt quelqu'un qui a 1000 idées à la minute.
Oui.
Ouais, c'est intéressant. Donc, tu es plutôt un... Moi, tu vois, je dis en gros, hein, mais vraiment, 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 pour résumer les choses, hein, attention aux généralisations, mais quand même, quand je rencontre des chefs d'entreprise, il y a vraiment deux profils qui se démarquent. Il y a ce que j'appelle, on va dire, le visionnaire. Et il y a l'intégrateur ou l'optimisateur, c'est comme on veut. Et il y a des gens, ils sont plutôt axés développement. Ils ont, comme tu dis, 1000 idées à la minute, ou bien... Ouais, 1000 idées à la minute, ou bien c'est les gens qui connaissent très très bien les clients, très très bien le métier, mais en même temps qui ont plein d'idées comme ça. Et puis, tu en as d'autres, c'est plutôt, ils optimisent en permanence, ils créent une structure qui est faite pour durer, etc. Et ce que je vois, c'est que ce qui fait la réussite d'une entreprise, c'est quand un visionnaire réussit à trouver soit un associé ou soit des collaborateurs qui sont ce que j'appelle intégrateurs, ou l'inverse. C'est-à-dire que c'est souvent le mariage des deux qui marche.
C'est exactement ça, Cédric.
D'accord.
Si je résume avec mes mots, je suis un peu une éponge hein, qui aspire tout ce qui peut se passer sur le marché avec une vision à long terme. Par contre, j'ai un défaut, c'est que je ne vois rien de près.
D'accord.
Je vois très rarement le concret et ce qui est prêt. Et effectivement, l'association avec deux collaborateurs est essentielle dans l'équilibre.
D'accord, c'est intéressant. Par contre, ça vous oblige quand même tous à... Enfin, ce que je veux dire, c'est que très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, bah, le visionnaire... Il n'a pas de management à faire parce qu'il est visionnaire et donc son leadership fait que ceci, cela et donc il va entraîner les autres. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est dangereux parce que, alors peut-être qu'un visionnaire, il est peut-être capable de gérer moins de personnes, c'est-à-dire il va assez vite être envahi s'il a trop de personnes à gérer et il va mal le faire, mais il a quand même besoin d'une méthode. Et par contre, les très bons managers, je dirais ceux qui ont besoin de plus d'outils, Je pense que ce sont tes directeurs, tu vois.
Oui, oui, exactement.
Bon. Eh bien, écoute, c'est vachement, vachement intéressant comme, comme intro. Alors, moi, est-ce que, déjà, tu m'as dit, quand on a un petit peu échangé, t'as un podcast préféré.
Oui.
Alors, c'est lequel?
Ah, c'est les lois de Horstmann, si je le prononce bien.
Voilà. Ouais, ouais, Horstmann. Horstmann,
Horstmann. Ouais. Voilà, c'est celui qui m'a fasciné par sa prise de recul, qui est finalement très concret, subjectif, presque proche de la philosophie.
Ouais.
Et ça, à chaque fois que je suis un peu débordé et que j'ai besoin de recul, je m'oblige à réécouter les 8 lois et je termine et je me dis, mais en fait, tout va bien.
Donc, à bon entendeur, hein, si vous écoutez le podcast, pour prendre une petite note, les lois de Horstmann, c'est vrai que c'est un petit peu une manière aussi de s'évaluer régulièrement que de voir si, si on suit ces lois. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, le podcast que j'avais fait, qui est le, je sais plus, les 23 ou les 22 lois du management, c'est sur le même principe, en fait, en détaillant un peu plus. Alors, de quelle formation tu voudrais qu'on parle aujourd'hui ? Parce que même si ce sont tes collaborateurs qui les ont suivis, moi, ça m'intéresse aussi que tu me dises qu'est-ce qui a le plus aidé l'entreprise, en fait. J'ai vu, alors juste, hein, j'ai vu que vous aviez pris système d'organisation réaliste, système de progression réaliste, j'ai vu aussi recrutement, il me semble.
Oui, oui.
Qu'est-ce que j'ai vu ? Je les ai pas tous en tête. On a parlé du disque. Donc moi, voilà, si tu as envie de parler de...
Moi, je peux te parler, Cédric, de ce qui est concrètement et quotidiennement en place dans l'entreprise depuis des années.
Tout à fait.
Et puis témoigner, faire un retour de ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui est installé de manière pérenne, gravée dans le marbre, c'est le disque, les feedbacks, les 1-1.
Ouais.
L'organisation de l'agenda, mais ça, c'est plutôt pour moi.
Ouais.
Et après, il y a aussi un dernier clin d'œil sur lequel j'aimerais bien appuyer, c'est le podcast qui m'a sauvé la vie du Covid, quoi.
Ah oui, pendant le Covid.
Ah oui, oui. J'étais complètement désemparé quand on a été claquemuré là en télétravail.
Ouais.
Et je suis retourné vers mon téléphone et j'espère qu'il y a pensé. Il y a pensé. Et du coup, j'ai appliqué quelques principes qui nous ont été plutôt utiles. Ouais.
Bon, alors, dans l'ordre, on commence par quoi ?
Le principal, je pense que c'est le disque, la communication.
Ouais. Alors, pourquoi ?
Si tu veux, moi, quand j'ai découvert le disque tout au début de l'entreprise, c'était une prise de conscience que l'autre est différent de vous, plus précisément qu'il communique et peut réagir différemment à ce que vous pensez lui avoir communiqué.
Tout à fait, ouais.
On a formé au fur et à mesure des 10 ans chaque personne au disque, à la connaissance de son profil, comment il est perçu par les autres et aussi de lui permettre de comprendre comment les autres communiquent. Il n'y a eu qu'une limite au disque, une consigne en disant c'est de ne jamais l'utiliser comme un outil de manipulation, de ne pas servir de cette arme pour obtenir quelque chose de l'autre. Donc le disque chez nous est déployé à toutes les strates de l'entreprise, communication interne, marketing, commerce, recrutement aussi. On a essayé d'équilibrer l'ensemble des profils de l'agence, 25% de D, de I, de S, de C.
Ouais, donc vous allez faire un truc super scientifique, en fait. Ah, c'est marrant.
Mais donc, en période en recrutement, on sait qui sera plutôt D, I, S ou C, de
c'est clair.
Dont on a besoin.
Ouais, c'est clair. Ah oui, parce qu'en fait, c'est vrai que j'en parle pas souvent de ça. J'en parle dans la formation, mais j'en parle pas trop sur le podcast. On peut tout à fait faire le profil d'une équipe ou d'une entreprise. Évidemment, c'est quoi le profil d'une équipe d'une entreprise ? Bah, c'est la moyenne des profils des gens qui sont dedans. Donc, c'est pas ultra scientifique, hein, parce que tout le monde n'a pas la même influence dans l'entreprise. Mais c'est intéressant. Ça permet surtout de se rendre compte des déséquilibres. C'est-à-dire,
Oui.
C'est clair, hein, tu mets une équipe de dominants entre eux, ça va être le panier de crabe. Tu mets une équipe d'influents entre eux, ça va être la guerre des égos. Enfin voilà, les stables, ils vont tous faire des bons goûters et tous s'entendre, mais ils vont pas aller vers grand-chose. Et les consciencieux, ils vont se poser des questions toute la journée. Donc ça permet un petit peu comme dans un bon assaisonnement, d'avoir les bons ingrédients en fait. Et c'est vrai que c'est assez simple à faire et c'est vraiment intéressant. Et après, comme tu l'as fait certainement, ça peut aussi permettre, quand on a un recrutement à faire, de se dire bah tiens, on n'a pas beaucoup de consciencieux par exemple dans notre entreprise. On va plutôt cibler ce profil. Pourquoi ? Parce qu'un consciencieux, bah, ça va être la prudence de l'entreprise, ça va être les processus, les procédures, etc., etc.
Exactement ça.
Et alors, c'est quoi les bénéfices, en fait, que tu as tiré, toi, de composer tes équipes un petit peu comme un assaisonnement ?
Alors, le bénéfice, c'est de trois ordres, je dirais. C'est d'abord une ambiance de diversité où les individus sont reconnus pour leur singularité, leur force et leur faiblesse. On est tous au courant dans l'agence qui est I, qui est D, qui est S, qui est C, et de quelle manière il faut l'aborder, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'adaptabilité face aux clients aussi, pour améliorer la communication et faire avancer les projets, est un plus aussi. Je ne mettrai pas un C devant un D ou un D devant un S, par exemple. Donc, quand je dois choisir un chef de projet, je me pose la question.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est intéressant.
Et la progression, avec la progression de l'entreprise, puisque aujourd'hui on touche des marchés, des clients et des marchés grands comptes, on a constaté que la plupart des grands comptes étaient formés au DISC aussi, ou une technique de profiloscope similaire.
D'accord.
Et ça nous a permis de nous faire reconnaître par ces clients-là comme leur alter ego, en fait.
Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. Ouais, donc en fait, effectivement, toi, tu mets comme bénéfice la diversité et la singularité des personnes. Oui. Mais tu pourrais avoir des personnes qui te disent « Bah non, plus j'ai de diversité, plus c'est compliqué à gérer. Et donc, plus je risque d'avoir des conflits entre les personnes. »
Oui, c'est court terme, oui.
Ouais, je suis d'accord, c'est court terme. Mais néanmoins, en général, quand on intègre les profils DISC dans la culture de l'entreprise, c'est-à-dire dans ce que les gens savent les uns des autres, eh bien, justement, ça nous oblige à constater qu'on n'est pas tous pareils. Déjà, c'est énorme, parce que c'est pas forcément quelque chose dont on a conscience.
C'est une belle leçon de vie,
oui. Ouais, tout à fait. Et puis, ça permet même de... Comment dire ? Quand il y a un conflit, ça permet de regarder le conflit de l'extérieur, même quand on est l'une des parties prenantes du conflit. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus toi contre moi, c'est nos profils qui sont incompatibles, et donc on peut même en plaisanter. C'est-à-dire que moi j'ai souvent fait cet exercice-là, et puis je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent la formation DISC, qui le mode d'emploi des collaborateurs, qui le font. C'est, on s'amuse à trouver les profils des autres, hein, c'est une séance qui dure une heure, et à la fin, du coup, les gens, par exemple, que je vais dire n'importe quoi, quand un dominant, au lieu de s'agacer et de pourrir le consciencieux qui met du temps à rendre ses trucs, bah, il peut lui dire « Ah bah dis donc, toi, t'es un vrai consciencieux, parce que moi, j'attends toujours. » Puis l'autre peut lui dire « Bah toi, t'es un vrai dominant. » Et quelque part, ça permet d'en plaisanter sans que ça touche l'intimité des personnes, en fait.
C'est exactement ça. Tu fais bien de le rappeler. Oui. C'est exactement ça. Ouais.
Et alors, l'utiliser avec les clients, moi je trouve ça super, parce que même quand t'as affaire à des énormes boutiques, avec des process, etc., finalement, quand on négocie avec une personne. Toujours, exactement. toujours. Moi, c'est souvent ce qu'on constate aussi dans mes entreprises, c'est de dire, faut jamais oublier qu'en face, oui, on a une entreprise, oui, on a un process, etc., mais surtout, on a un individu. Et donc, bah voilà, essayer de mettre la bonne personne comme interlocuteur, c'est plutôt malin. Mmh. Et ça vaut aussi, tu le disais, lorsqu'on mène un projet, ça vaut vraiment la peine de connaître les profils des personnes qui sont dans le projet. Ça, c'est ce qu'on explique dans la formation, le chef de projet relationnel. C'est que, bah, à un moment, si ton projet, tout d'un coup, tu sens qu'il s'endort et puis qu'il est un peu dans l'ornière, eh bien, quelquefois, il faut être capable de donner plus de pouvoir, par exemple, aux dominants qui sont dans le projet, parce qu'eux, ils vont savoir sortir le projet de l'ornière. Alors que par moment, quand tu sens que ton projet s'emballe, etc., il faudra peut-être donner plus de pouvoir aux consciencieux qui vont border et puis qui vont regarder les risques, etc. Donc c'est extrêmement riche, ce disque. Et donc, les gens chez toi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été sensibilisés au disque ou vous avez passé...
On a passé des heures et des heures.
D'accord.
Entre midi et deux, enfin au tout début, hein, je me souviens, il y a 7-8 ans, au tout début, quand on commençait à avoir du personnel, on prenait un sandwich entre midi et deux, et puis on écoutait les podcasts, on prenait des notes, on réagissait, on se faisait des exercices.
Génial.
Et qui est quoi, pourquoi ce projet a foiré, parce que le client est ceci, cela, la prochaine fois on l'abordera autrement. Oui, ça a été un vrai travail de longue haleine. Ouais. Maintenant, on en rigole, on en plaisante.
C'est intégré, quoi, en fait.
Ah oui, complètement intégré, oui.
Ouais, super, vraiment intéressant. Alors ensuite, tu me parlais des feedbacks.
Oui. Les feedbacks.
C'est l'outil.
C'est un gros morceau aussi, ça.
Ouais. Et je dirais que c'est un des outils, au départ, d'expérience, mais tu me diras si ton expérience est différente. Pour moi, ça a été un des outils les moins naturels.
Ah oui.
Pour moi, au début.
Oui, on est toujours plus enclin à avoir toujours le côté, comment dire, pas positif, mais on est moins enclin, je veux dire, à corriger les choses. Et pourtant, c'est fondamental. Je dirais que toute entreprise qui se tient, les feedbacks sont, à mon sens, un devoir du manager. C'est simplement l'occasion aux collaborateurs de progresser dans ce que vous attendez d'eux. Penser construire une organisation sans feedback, c'est en gros ne laisser aucune chance aux collaborateurs qui, dans la très grande majorité, ont le principe de bonnes intentions, simplement de trouver leur place dans cette organisation et de se sentir aller dans le sens de l'entreprise. Moi, je vais pas dire que je me suis pas laissé avoir un petit peu par le principe de bienveillance là qui était à la mode il y a quelques années.
Ouais.
Là, aujourd'hui, avec du recul, quand on parle de bienveillance en entreprise, le feedback, c'est le véritable service que vous pouvez leur rendre.
Je suis d'accord. Là, je suis 100%.
Ça, c'est le feedback, c'est patience, analyse pour corriger les choses sur le long terme. Et feedback sans fréquence, en dernier mot, c'est un peu le piège aussi. C'est perçu comme des coups d'épée dans l'eau. C'est complètement inefficace.
Ouais, ouais.
Et un feedback doit être associé avec la fréquence. On doit s'obliger au feedback. Je trouve qu'on n'en fait jamais assez, en fait.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, par rapport à la bienveillance, en fait, moi, je trouve ça extraordinaire, la bienveillance. Être bienveillant, c'est une attitude. Mais en fait, le problème de la bienveillance, c'est que c'est tellement large et on a tellement sa définition de la bienveillance que c'est complètement impossible d'en faire un outil, déjà.
Oui, c'est très subjectif, en fait.
Complètement. C'est-à-dire que moi, je vais te dire, dis donc, Martin, faudrait que je parle, tu vois, quand tu arrives en retard en réunion, bah voilà ce qui se passe, tu mets l'équipe en retard et du coup, c'est compliqué. Et toi, tu vas me dire, dis donc, Cédric, il est pas bienveillant, il me critique. Tu vois, ça peut être ça. Et l'autre chose de la bienveillance, c'est un truc contre lequel tu peux pas vraiment t'opposer. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord que la bienveillance, c'est bien. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait. Le feedback, c'est totalement différent. Moi, je pense que le propre du feedback, c'est que c'est un outil, donc il est normé, il est défini. Il y a une manière de faire le feedback, et donc à partir de là, on peut vraiment en parler et le mettre en application. C'est ça l'intérêt. Maintenant, pour moi, je te rejoins sur le fait que la vraie bienveillance du manager, c'est de faire des feedbacks.
C'est ça.
Positifs ou négatifs. Parce que c'est comme ça que tu donnes une chance à ton collaborateur de progresser.
Oui.
Et si tu donnes une chance de progresser, ça veut dire que tu as confiance dans sa capacité à progresser. Et,
oui.
Et moi, une phrase que j'aime bien, c'est la personne que tu es aujourd'hui, je l'aime bien, mais j'aime surtout la personne que tu vas devenir demain. Et ça, c'est intéressant de voir ses collaborateurs comme ça. On le dit plutôt pour les enfants, mais on peut aussi le dire pour les collaborateurs. Sans pour autant être paternaliste, pardon.
Parce que c'est une preuve que tu as de l'intérêt pour eux. Moi, je pense que c'est un devoir.
Ouais. Et je crois que la bienveillance, c'est justement la capacité à dire de manière positive des choses négatives. Et l'autre chose que tu dis, que tu viens de dire et qui est intéressante, et de toute façon, c'est là, quand je faisais des conférences, c'est la première chose que je demandais, je disais dans la salle, levez le doigt les personnes qui estiment qu'elles ont trop d'informations de la part de leur chef. Et en général, les gens, personne qui lève le doigt. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais faire trop de feedback à vos collaborateurs. Donc, même maintenant, même si vous connaissez l'outil feedback, je peux vous dire que vos collaborateurs, ils en veulent plus. Parce que, et évidemment, il y a la manière de le faire, il faut que ce soit agréable, etc. Et dire que c'est le devoir du manager, bah ouais, super. Moi, je pense que c'est ce qui peut complètement structurer ton entreprise, en fait, le feedback. Puisqu'en fait, c'est de là que vient l'amélioration continue.
C'est ça, c'est ça.
Et la fréquence, tu as terminé en parlant de la fréquence. Donc, je suis d'accord avec toi, faire un feedback une fois tous les mois, ça n'aura aucun effet.
Non.
Donc on est bien d'accord. Par contre, l'outil, enfin, je ne sais pas toi comment tu l'as mis en œuvre. Au début, il n'est pas évident. On se sent un peu bête, hein, peut-être.
Ah, il faut s'obliger, oui. Il faut s'obliger comme un devoir, comme notre métier, en fait. Voilà, moi je le prends un peu comme ça. Oui, c'est pas simple, mais surtout pour les feedbacks négatifs. Les feedbacks positifs, c'est toujours plus facile, mais
ouais.
les feedbacks négatifs, voilà. Mais c'est avec cette prise de recul, comme un devoir, comme notre métier, de permettre aux collaborateurs de trouver sa place dans l'organisation et de sentir qu'il va dans le sens de l'entreprise, tout simplement. C'est.
Parce que moi, ce qui marche bien, c'est ce que j'ai intégré dans la formation manager essentiel. Parce que le chapitre feedback, pour moi, c'était un des plus importants, le module sur le feedback. Et en fait, ce qu'on fait, vraiment pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est qu'on fait une espèce, moi j'appelle ça du travail en laboratoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le feedback directement au collaborateur. On le bosse avant. Et même moi, j'encourage les élèves à partager entre eux sur le forum leur feedback pour vraiment le moduler pour qu'il soit le mieux possible. Et donc, ça demande un petit peu de travail de préparation. Mais du coup, au moment de la restitution, au moment de faire le feedback, on est beaucoup plus détendu et tranquille. Et puis, on se dit, bah tiens, il n'a pas super bien été reçu, mon feedback. Donc, la prochaine fois, on peut le remoduler, etc., etc. Je pense que ça rassure un petit peu de le faire en labo avant de le faire en vrai, quoi.
C'est une super idée. Écoute, ouais. Là, je l'ai noté. C'est vrai.
Alors, ce serait quoi ensuite l'outil
Celui qui est utilisé aussi depuis très longtemps, Léana. Hein, voilà, tout simplement aussi. Dans l'entreprise, ils ont lieu chaque semaine avec l'ensemble des collaborateurs pour 30 minutes et depuis au moins 7 ans maintenant.
Ouais, donc c'est bien intégré.
Oui. C'est même demandé. Donc moi, j'essaye dans l'organisation, la structuration, c'est assez difficile pour moi de les faire tous, bien que je passe du temps avec chacun, mais plutôt suivant mon emploi du temps.
Voilà. Toi, en fait, tu me parles des 1-1 avec d'autres personnes que tes collaborateurs, direct.
Alors, moi, je fais les collaborateurs de mes directeurs. Les directeurs font les 1-1 des chefs de service et les chefs de service font les 1-1 des collaborateurs.
Tout à fait.
Donc, c'est l'organisation. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça n'empêche pas, malgré cette structuration, de fonctionner à l'horizontale et chacun. Enfin, moi, je me permets bien sûr d'aller voir chez n'importe quel collaborateur et de passer du temps avec lui
bien sûr.
Le plus souvent possible. Quoi.
Oui, alors très important, et tu fais bien de le préciser, quand tu mets en place... En fait, l'intérêt des 1-1, déjà, c'est que ça t'oblige quelque part à mettre en place une organisation. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux règles à appliquer pour moi dans une entreprise et qui concernent les 1-1. La première règle, c'est que toute personne de l'entreprise doit avoir un 1-1 avec quelqu'un.
Oui.
Moi, je préfère partir du bas, du bottom, pour aller vers le haut, plutôt que de dire tout manager doit faire des 1 à 1. Moi, j'aime bien renverser le truc et dire assurez-vous, chef d'entreprise, que dans votre entreprise, chaque personne ait un 1 à 1, c'est-à-dire un rendez-vous d'une demi-heure, 30 minutes chaque semaine. Donc, déjà, quand on se dit ça, ça oblige à se dire bah oui, mais avec qui ils vont avoir les 1 à 1? Et en fait, tu remontes ta hiérarchie comme ça. Et la deuxième règle, donc la première règle, c'est tout le monde doit avoir un 1. La deuxième règle, c'est essayer d'avoir des équipes, des cellules, en tout cas des entités, qui soient au maximum composées de 8 personnes. Autrement dit, à chaque fois qu'une cellule grossit et qu'elle commence à passer à 10 personnes, bah, faut la couper en 2. Du coup, bah, avec qui vont les personnes de la nouvelle cellule vont-ils faire le 1 à 1? Eh bien, c'est ça qui va générer ta hiérarchie. Donc ces deux règles-là, elles permettent, c'est vraiment intéressant, parce qu'elles permettent que tout le monde soit relié à quelqu'un. Moi, j'appelle ça des relais de communication, mais en fait, ce sont les managers. Hein. Et que l'entreprise, quand elle grossisse, elle ne perde jamais cette, je sais pas comment on pourrait dire, cette granularité, c'est-à-dire ce lien qui lie tout le monde ensemble. Mais une fois que tu as dit ça, c'est-à-dire une fois que tu as ta hiérarchie et que la communication elle est en place à travers les 1-1, ça ne veut pas dire que le patron ou X ne puisse pas aller communiquer en direct avec Y. Surtout pas.
Et non.
C'est une structure de communication qui est fixe et qui est stable, qui est installée à travers la mise en place des 1-1, mais avec plein de communications informelles qui se font de manière tout à fait naturelle et selon les nécessités dans l'entreprise. Donc moi, c'est pas parce que... Je suis comme toi. C'est pas parce que... j'ai en direct 5 personnes dans l'entreprise que je discute pas quasiment chaque semaine ou j'ai pas un petit mot avec chacune des 35 personnes de l'entreprise.
Exactement.
Alors toi, c'est quoi les avantages que tu as trouvés au 1-1?
Bah, le plus clair, c'est le lien créé entre le manager et le managé. Voilà.
Ouais, la confiance.
Ça, c'est important, bien sûr, pour travailler ensemble. Un avantage, c'est un gain de temps aussi. C'est ouais. Les retours et difficultés sont la plupart du temps traités dans les 1-1 et rarement en dehors de ce créneau. Donc ça permet d'être focus sur le flow le reste de la semaine.
Ah ça, je suis content que tu le dises parce que en général, la première chose qu'on me dit quand je dis tu vas devoir passer une demi-heure avec chacun de tes collaborateurs par semaine, ils me répondent j'ai pas le temps.
Ouais.
Et je lui dis ben non, t'as pas le temps parce que justement tu fais pas les 1-1.
Ça doit être une discipline aussi, c'est-à-dire que c'est encore une fois c'est un deal, on fait les 1-1 mais en dehors des 1-1 voilà, on reste dans le flow du travail quoi.
Exactement, c'est aussi la meilleure façon d'installer un flow, le terme est bon, du travail, parce que faire des 1-1 ça génère plus d'autonomie, alors qu'on pourrait penser le contraire. Moi j'ai des gens, ils me disent bah non mais ce que tu fais c'est du micro-management, je dis non, je fais du management, et en dehors de ce temps-là du coup les gens peuvent avancer, ne sont pas interrompus. Et le fait que les 1-1 soient programmés à l'avance, ça fait que tu es toujours à moins de 5 jours ouvrés du prochain 1-1. Donc, du coup, bah, au lieu d'interrompre la personne, tu dis « bah non, bah, je le vois dans 2 jours, c'est pas aussi urgent que j'ai besoin de l'interrompre ».
C'est ça. La détection de zones de stress ou de fatigue anormale aussi. Ça, c'est quelque chose dont on se sert beaucoup. Permet, je sais pas si ça. Enfin, on n'a pas de burn-out hein, dans l'entreprise. Peut-être c'est dû à ça, je sais pas. Mais c'est quelque chose où on est très vigilant aussi. Ça fait l'objet de réunions hein, entre le directeur et moi sur ces zones-là.
Alors, tu peux. Ça... Évidemment, ça prévient le burn-out, ça ne l'évite pas, parce que quelquefois, tu as beau constater que la personne est de plus en plus débordée, etc., que parfois, tu as du mal à l'empêcher, en fait, de travailler. Mais c'est sûr. Moi, j'ai un petit truc aussi à donner, c'est que moi, je commence toujours mes 1-1 par la même phrase. Par exemple, je dis toujours « Comment allez-vous » ou « Comment ça va ?» Et je note exactement ce que me dit la personne. Pourquoi je fais ça? Parce que selon les tempéraments, quelqu'un qui te dit bah, ça va,
exactement.
Ça va, toujours la même chose, puis à un moment, elle va te dire bah, ça va pas mal. Et là, tu peux dire oh, il se passe quelque chose. C'est intéressant.
Ouais. J'ai mon petit truc personnel, moi aussi, c'est tous les matins, je dis bonjour à tout le monde, tout le tour du bureau, n'importe quel jour. Et en deux secondes, avec la poignée de main, enfin pas aujourd'hui, mais ou dans le regard, je sais si ça va ou si ça va pas, quoi.
Tout à fait.
Tu vois, l'intonation de la voix, le regard, droit dans les yeux ou pas, et du coup, ça permet d'en parler deux minutes, quoi.
La bienveillance, c'est ça aussi.
Exactement. On détecte aussi l'accompagnement du collaborateur. Il n'a pas le sentiment d'être seul et abandonné face à une tâche. Voilà, une espèce de solidarité d'entreprise. J'ai, dans mes recrutements qui viennent d'anciennes grandes entreprises, je ne sais pas si c'est un travers généralisé, mais c'est souvent des top ingénieurs, mais qui sont abandonnés face à une montagne, quoi, qui doivent résoudre tout seuls. Ça, c'est pas le cas chez nous. Voilà. C'est grâce à un, quoi.
Ouais, je te confirme. Alors, c'est pas forcément pour résoudre les problèmes de la personne.
Non.
Mais c'est marrant. Bon, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je viens de terminer le bouquin de Charles Pépin qui s'appelle La Rencontre.
Hey, je suis en train de le lire aussi.
Ah, bon, super.
Je suis à la page 100.
Ah, bon, ouais, je suis à la fin. Et la fin, ça devient vraiment plus philosophique et même presque psychanalytique. Et il dit un truc à un moment.
Alors, je ne raconte pas la fin.
Non, mais tu vas voir, ça ne va pas gâcher le truc. C'est en fait, à un moment, il dit, alors je ne sais plus si c'est Sartre qui dit ça, mais il dit, rencontrer l'autre, c'est exister. En fait, il dit qu'on ne peut pas exister tout seul. On existe toujours parce qu'on rencontre l'autre.
Exactement.
Et en fait, ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est-à-dire que le collaborateur, le fait que chaque semaine, il puisse parler et qu'on l'écoute, même si on ne résout pas ses problèmes, parce que, encore une fois, la bienveillance, ce n'est pas forcément de résoudre ses problèmes, c'est de l'aider à les résoudre ou simplement d'écouter ses problèmes, et quelquefois, ça s'arrête là. Eh bien, c'est extrêmement important, c'est fondamental, et c'est ça qui relie les gens les uns avec les autres. Et pour confirmer ce que tu as dit, ça date un petit peu, il y a quelques années, on m'a demandé, avec Laurie, d'animer un séminaire de fin d'année dans une entreprise, mais on m'a dit, par contre, c'est pas des managers. Donc j'ai dit, bah ouais, mais le problème, c'est que nous, on fait plutôt des formations au management. Et donc, bref, on avait axé notre formation sur le disque. Mais j'ai quand même fait un tour de table à propos du management. J'ai demandé aux personnes qui étaient là, et qui donc n'étaient pas des managers, pourquoi vous restez dans cette boîte ? C'était une boîte de technologie, enfin d'informatique, où traditionnellement le turnover est très très important. Et j'ai dit, qu'est-ce qui fait que vous restiez dans cette boîte ? Et tous sans exception, ils ont dit, les 1-1. Dans les boîtes où on était avant, oui, on avait des bons salaires, oui, on avait des trucs intéressants, mais on n'était pas considérés. C'est-à-dire qu'on sentait absolument qu'on était remplaçable, etc. Et dans cette boutique, dans la boîte où on est allé, qui avait mis en place les 1-1, ils ont dit, là, ici, on nous écoute, là, on existe, en fait. Mmh. Et donc, je confirme absolument ce que tu viens de dire sur le 1-1.
Oui. Et en dernier lieu, ça permet, il me semble, de revenir parfois sur la communication de l'entreprise aussi. C'est dans les 1-1, on peut s'assurer le message de l'entreprise est passé et qu'il a été bien compris, ce qui n'est pas toujours évident.
Bien sûr. Tu fais un peu de communication descendante, en fait.
Voilà.
Ou alors tu réponds aux questions. Il y a quand même un truc qu'il faut faire juste attention sur ce dernier point. C'est que le 1-1, avant tout, c'est ton collaborateur qui s'exprime. Donc parfois, je le dis, je suis sûr que tu le fais bien, mais je le dis parce que quelqu'un qui nous écouterait pourrait penser que les 1-1, c'est que de la communication descendante.
Non, non.
Alors, c'est exactement l'inverse. Hein.
Exactement. Et c'est, en dernier lieu, peut-être moins bien, c'est le 1-1, lui, il doit être absolument... C'est une discipline, hein, un peu comme tu viens de le dire. Hein, c'est une communication ascendante.
Ouais.
Je me suis pris les pieds dans le tapis une fois, je me souviens, il y a quelques années, où le chef de service était moins bien formé au 1-1 que je ne pensais, et ça a détruit tout un service, hein, en fait. Donc,
ouais.
C'est une arme, enfin, pas une arme, mais c'est quelque chose vraiment à double tranchant. Hein. Il faut que ce soit... C'est une discipline, aussi.
Bah, c'est comme tous les outils très puissants. Tout à l'heure, tu disais, le disque, on a mis une limite au disque, c'est que ça ne doit jamais être utilisé pour la manipulation.
C'est ça.
Le 1-1, c'est pareil. Si tu fais... Tu peux faire du 1-1 un entretien de flicage, hein, c'est facile. Hein. Ouais, et ouais. Tu peux en faire un entretien de micromanagement ou de relever des compteurs, etc. Et c'est pour ça que, la... c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Hein. On a une formation qui n'est pas chère et qui est vraiment, vraiment utile. C'est 1-1 Express, où vraiment on met les fondements du 1-1 et ce qu'il faut vraiment respecter du 1-1, la base du 1-1. Bon, c'est entre autres l'écoute. Après, il y a toutes les autres caractéristiques du 1-1, mais effectivement, tu peux en faire un engin de destruction massive. Hein. Un marteau, tu peux t'en servir pour construire un meuble ou pour assommer quelqu'un. Donc, c'est ça. Ça vaut pour tous les outils. Hein. Le feedback, c'est pareil. Hein. Si tu l'utilises mal, tu peux détruire quelqu'un. Hein. Donc,
Oui, mais je m'en fais peut-être le reproche à moi, c'est que j'avais pas suffisamment contrôlé les retours de ces 1-1 et
ouais. T'es quel profil, toi,
disque? I, ouais.
I. Mm. Bon, le risque du I en 1, c'est de prendre le pouvoir, en fait. C'est le même risque que le D. Hein. Moi, c'est régulièrement ce contre quoi je me bats. Et régulièrement, je me dis, bon, bah, ce 1-1-là, c'est moi qui ai parlé tout le temps. Je pourrais appliquer ça à notre interview aussi. Mais voilà, après, quand tu connais ton profil, ça t'aide aussi à mieux faire ton 1-1.
C'est ça.
Après, est-ce qu'il y a un autre outil dont tu voudrais nous parler ?
Voilà, c'est plus une organisation de l'agenda. Voilà, c'est une discipline personnelle qui me permet justement de libérer du temps pour moi.
Ouais.
Donc ça, je pense que tu l'as évoqué tout au fil de tes formations et podcasts.
Ouais.
Moi, c'est personnellement, moi, l'enjeu, c'est d'avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Voilà.
Tout à fait.
Ça, c'est l'enjeu, il est primordial avec la tension et l'émotion qu'on met toujours toute la journée dans le boulot, quoi.
Mm-hmm.
Ne pas la rapporter à la maison, en fait.
Ouais, c'est ça.
Donc moi, au fur et à mesure des années, j'ai trouvé une routine et une organisation concrète. Voilà, une routine, par exemple, la journée type, elle commence à 6h30 avec 40 minutes d'évanescence le matin où j'écris les volubilités qui traversent mon esprit sur des notes, des brouillons.
Assez intéressant.
Espèce de brainstorming avec moi-même, c'est la partie subjective de la journée.
Ah bah ça, alors tu vois, c'est marrant, parce que tu vois, bon, tu m'as dit que tu avais 10 idées par jour,
ouais.
Ce qui m'étonne pas, donc quand tu m'as dit ça, je me suis dit, bon, il y a des chances qu'il soit I quand même,
mmh.
Et en fait, en mettant en place ce petit rituel, je pense aussi que c'est ta manière pour canaliser tes 10 idées par jour.
C'est exactement le mot que j'aurais utilisé, ouais.
Mmh.
Canaliser, ouais. Après, je fais 40 minutes de sport, j'emmène mon fils à l'école.
Tu fais quel sport ?
Ouais, je fais rameur, course à pied, gainage, enfin, à la maison, quoi.
Mmh, l'exercice.
Ouais. Et quand j'arrive à 9h à l'agence, mes idées sont claires et ma journée est quasiment déjà terminée. Je sais ce que je vais faire et comment je vais le faire, en fait.
Mmh.
Prêt à rentrer dans la partie objective de la journée.
Mmh.
Ce qui est important aussi, mais on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est au moins une heure de lecture par jour. Voilà. Soit à la pause déjeuner, soit le soir.
Donc en ce moment, tu lis Charles Pépin.
Ouais. J'en ai toujours deux ou trois en même temps. Là. J'ai Voyage au bout de la nuit de Céline, Charles Pépin.
D'accord.
Et d'autres.
D'accord, c'est intéressant.
Et après mon agenda papier, je tiens à le garder papier-crayon.
Ouais.
Lundi matin, j'écris mes objectifs de la semaine, ni trop ni trop peu.
Mm-hmm.
Manière générale, sauf exception, les tâches importantes, décisions stratégiques sont en début de semaine et le matin.
D'accord.
L'après-midi, plutôt consacré au GTD, mail et réunions ennuyeuses, quoi. En fait.
est-ce que t'as fait ton chronotype?
Alors, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, le chronotype, je crois que c'est dans le manager essentiel qu'on voit ça. C'est en fait T'as des gens, je vais résumer, hein, qui sont plutôt du matin, puis d'autres
Ah oui.
de l'après-midi et d'autres du soir, en fait. C'est une manière de...
Ah oui, je vois.
Tu vois, c'est une manière de savoir quand tu as de l'énergie, mais c'est pas tout à fait d'ailleurs ça. C'est-à-dire que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu peux par exemple être très clairvoyant le matin sur les décisions à prendre, mais ton énergie créative, elle va peut-être être plus en fin de journée, tu vois. C'est pas que la gestion de l'énergie, c'est aussi la gestion de l'énergie et de la concentration. C'est-à-dire que souvent, on est un peu plus créatif quand on est un peu plus fatigué pour certains profils. Et donc, quand tu es chef d'entreprise ou quand tu as la chance de pouvoir organiser ta journée à peu près comme tu veux, ça, c'est précieux. Et dans ce que tu me dis, moi, je pense que tu es soit lion, soit ours, c'est-à-dire plutôt quelqu'un qui a de l'énergie le matin. Et donc, de manière intuitive, ce que tu as fait, c'est que bah, ta créativité, tu l'évacues assez vite le matin. Ça c'est vraiment bien pour quelqu'un qui a 10 idées par jour, parce que le problème de quelqu'un qui a 10 idées par jour, c'est qu'il a du mal à se structurer parce qu'il a toujours envie de rajouter des tâches ou des objectifs dans ses listes. Et donc le fait d'avoir une structure, déjà ça lui interdit ça. Le fait d'avoir un agenda papier, pour quelqu'un comme toi, c'est bien, parce qu'en fait la caractéristique du papier, c'est que c'est fini. C'est-à-dire que si tu dois écrire tes notes sur une page, bah, tu ne peux pas l'écrire sur deux pages. Alors qu'en électronique, c'est infini. Tu peux faire une liste qui n'a pas de fin. Donc pour quelqu'un qui a plein d'idées, il vaut mieux être sur des formats limités. L'autre chose, c'est que tes 40 minutes d'évanescence, c'est vachement intelligent parce que, en fait, c'est ça qui te permet d'évacuer toutes tes idées, mais à pas les mettre dans tes listes de tâches. Et ensuite, je vois que plus tu avances. Donc après. Une fois que tu es dans ton entreprise, tu n'es que sur tes objectifs. Et au fur et à mesure de ta journée, tu fais les tâches qui demandent de moins en moins de créativité, apparemment.
C'est ça, c'est ça.
Et même dans ta semaine, ça c'est marrant.
Oui, dans la semaine, j'ai le lundi la gestion, mardi, jeudi prospect développement, mercredi RH et vendredi, c'est très important de finir la semaine sur une note positive, conclure la semaine en fait,
Ouais,
pour
c'est pas mal.
partir le week-end l'esprit libre.
C'est vraiment intéressant. Et alors, je ne sais plus dans quelle formation, là j'ai un trou de mémoire, mais je sais que j'en ai une où je dis créer votre journée idéale. Et je dis on peut avoir trois journées idéales. C'est-à-dire la journée idéale de quand on doit faire du commercial, la journée idéale de quand, etc., etc. Et ça ne veut pas dire que vous allez faire que des journées idéales. Ça veut dire que vous pourrez avoir un modèle par rapport auquel vous pourrez comparer vos journées. Et moi, j'ai ça, j'ai 3-4 journées idéales. Et puis, j'essaye bah, chaque jour que ce soit une de ces 3 ou 4 journées idéales. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Ok, bah écoute, super, vraiment intéressant. Et alors, tu voulais parler du Covid, c'est comme ça que tu voulais conclure ou bien.
Bon, c'est un petit clin d'œil sur le dernier podcast. Voilà, moi, on a été tous surpris hein, par le télétravail. Donc, nous, on était plutôt moderne, donc avec les outils, le VPN, les ordi portables, etc. C'était pas compliqué, mais c'était surtout dans la relation avec les collaborateurs. Ce que je t'ai exprimé, c'est qu'on est plutôt proche dans l'entreprise, hein, avec les 1-1, etc. Et le fait de se retrouver tous en télétravail, ça a été une difficulté, une épreuve. Donc là, comme je te disais au préalable, là, je me suis tourné vers le téléphone, je dis, j'espère qu'il y a pensé. Et ouais, il y a pensé.
Bah
Donc
ouais.
merci, merci. Ouais.
Bah en fait, moi j'ai même inversé le truc, c'est que j'ai dit, en fait, je me suis dit, bah voilà, avec le Covid, les gens qui vont terriblement souffrir, c'est pas les pires, ce sera pas toi, parce que toi, t'avais déjà mis en place un management
Oui.
structuré, tu vois. C'est les autres.
Ah oui.
C'est-à-dire que le manager ou le boss qui basait son management sur de l'informel, ce que j'appelle le management diffus. Bah, quand tu es en télétravail, tu peux plus faire du management diffus. Ou alors tu es en soit et donc il y a plein de managers qui ont complètement disparu. Moi, j'ai eu plein de témoignages de gens hein, sur le forum qui ont dit bah moi mon boss, Il communique plus. Depuis le Covid, on le voit plus, on sait pas où il est, ce qu'il fait, etc. En fait, ils avaient pas ritualisé leur management. Donc le premier truc que j'ai dit, bah, le Covid, c'est l'occasion de ritualiser le management, finalement. C'est une chance de mettre en place le management. Exactement. Alors, je sais pas, vous, vous avez fait quoi, en fait, dans ta boîte?
Bah, la visio-café, tous les matins. Ouais. C'est tout bête, mais c'est hyper important. 15 minutes tous les matins avec toute l'équipe.
Ouais.
On a poursuivi les 1 à 1.
Oui, bien sûr. Hyper important.
Et
hyper
oui, mais important. C'était... Enfin, si on était pressé, on se demandait est-ce qu'on n'allait pas gagner du temps là-dessus. Ben non. Non, non, on l'a gardé.
Ah non, ouais. En fait, le 1 à 1, c'est surtout le truc... Moi, j'ai fait cette erreur, je crois que je l'ai dit dans le podcast. T'es débordé ou t'as une grosse crise dans la boîte, tu dis, bon, bah, les 1 à 1, on va arrêter pour l'instant, il y a des choses plus importantes. Et en fait, t'es en train d'enlever les fondements. Donc non, c'est le 1 à 1, il est encore plus important quand il y a des crises.
C'est ça. Puis après, j'avais ma petite liste de l'ensemble du personnel et je mettais une petite croix à chaque fois que j'étais en contact avec eux. Ouais. À la fin de la semaine, ceux qui avaient moins de croix, c'était ceux qui s'isolaient, voilà, et il fallait entreprendre une action. Voilà.
Ça, c'est un des trucs que je donne dans la formation management à distance. Je le donne à la fois pour un boss comme toi, où tu te rends compte que, tiens, c'est bizarre, lui, j'ai pas de contact. Parce que si tu le fais pas sur un papier, tu le visualises pas, tu t'en rends pas compte, et quelque part, t'as pas envie de le voir. Mais c'est vrai aussi, à l'inverse, pour quelqu'un qui est salarié, de se rendre compte qu'il n'a pas été en contact avec son boss depuis un moment. Or, c'est aussi à lui de faire l'effort de rentrer régulièrement en contact avec son boss. Donc, c'est important.
Et enfin, moi, j'ai interdit de se lancer dans une critique à l'encontre du gouvernement, voilà, au sein de l'agence,
mais
aussi au travers des réseaux sociaux. Voilà.
Ouais.
Je pensais qu'il était très important d'éviter de participer à une polémique où personne ne comprenait rien et créer de l'énergie négative, en fait.
Tout à fait. Très, très bonne initiative. Hein. J'en avais parlé aussi.
C'est ça.
En fait, c'est un peu la phrase de Marc Aurèle, c'est-à-dire ça ne sert à rien de parler de choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Or, malheureusement, on adore faire ça en entreprise. On adore faire des réunions où ce dont on va parler le plus, c'est ce sur quoi on n'a aucune action possible. Et je dirais que c'est assez logique. Hein. On en parle beaucoup parce que ça nous frustre. Mais on devrait plutôt parler des choses qu'on peut faire changer, qu'on peut évoluer, qu'on peut faire évoluer, qu'on peut améliorer, quoi. Ouais. Bon, puis après, il y a l'image de la boîte aussi, quand même.
Oui, ouais. Quand même.
Ouais. Ok, bah écoute, super intéressant, Martin. Ça, vraiment, je pense que tu vois tout ce que tu as dit là, de manière très très simple, hein, je te remercie pour ça. Je pense que ça peut être vraiment utile à des chefs d'entreprise ou à des managers qui se posent des questions. Mm-hmm. Comment est-ce que tu voudrais finir l'interview en disant quelque chose aux auditeurs de particulier, peut-être nous dire les projets que tu as par la suite, etc.
Oh, des projets. Ce que je voudrais dire, c'est un peu la synthèse de ces 10 ans, parce que là, c'est la première fois qu'on se parle, Cédric, mais moi, je te connais depuis 10 ans. En
fait. Ouais, c'est ça. Ça fait toujours un peu bizarre. Il paraît.
Mais oui, bien sûr. Ouais. Bon, moi, je pense que voilà, la politique générale de l'entreprise a été de se concentrer au maximum sur le positif, sur ce qui construit et écarter d'autorité ce qui détruit. Chaque erreur doit être une source d'amélioration, de rebond, à la manière d'une grenouille, en fait. Quand on veut réunir des personnes autour d'un projet, moi, je suis convaincu que le management est essentiel. Pour moi, outil du manager a été la clé de voûte qui m'a permis de réunir des ingénieurs et économistes de talent, souvent bien meilleurs que moi. Management a été essentiel également, car il transforme une idée subjective et idéaliste en la rapportant à l'objectivité. Voilà, on l'a évoqué plusieurs fois, là, ensemble.
Tout à fait, oui.
Et ça le transforme en réalité. Depuis 10 ans, ça, j'ai pu le constater. J'ai deux liens, voilà, pour toutes les formations. À mon sens, le lien, c'est de rapporter la subjectivité, nos sensations, nos idées et des équilibres propres, de manière générale, tout ce qui fait l'intranquillité du créateur vers l'objectivité. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
D'accord.
L'objectivité étant ce qui est tourné vers l'extérieur et les autres. Voilà. Et enfin, outil du manager oppose aussi, à mon sens, la notion de pouvoir, qui est facile, mais qui détruit, s'use, qui a toujours une fin, à la notion de puissance, une notion de construction d'une singularité, d'un charisme, d'un leadership légitime et reconnu.
D'accord. Toi, en fait, toi, tu sépares donc pouvoir et puissance. C'est la même origine. Hein, c'est la même origine.
Complètement.
Mais... Ouais, c'est intéressant.
La puissance, c'est une élévation, c'est un chemin infini de construction, quoi. Après, pour le concret et les chiffres, on est parti de zéro il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est classé dans les champions de la croissance par les Échos, numéro 171. On est rentré dans le classement des 1000 entreprises européennes qui grandissent le plus vite par le Financial Times.
Ah ouais.
Et dans le classement par chiffre d'affaires des bureaux d'études français, on est numéro 118. Donc ça, en 10 ans, et notamment bien, bien appuyé sur ton savoir, Cédric. Donc, bah, merci.
Écoute, je suis enchanté pour toi et même fier. Même si je ne suis pas pour grand-chose, je pense. Parce qu'après, oui, tu sais, je dis toujours, t'as beau parler, t'as beau être convaincu, ce qui compte, c'est le passage à l'action. Et le passage à l'action, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est vous. Hein, donc bravo pour ça.
C'est pas moi non plus, c'est mes directeurs.
Ah bah, encore mieux. On se refile tous la patate chaude. non, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que t'es quelqu'un d'assez cérébral.
Ouais.
Et en fait, voilà, moi, ce que je retiens, c'est que outil du manager, ça t'a peut-être permis de convertir ce qui est cérébral dans quelque chose de concret et avec un résultat, en fait. Et je trouve très très bien que tu aies conclu ce podcast en parlant justement de cette subjectivité, des sensations, des envies qu'on a en tant que chef d'entreprise, et que tu aies terminé par le résultat avec le classement de la boîte, etc., etc. Parce que je pense que il faut être bon partout, quoi. C'est bien d'être bon dans sa tête, mais il faut aussi à un moment, c'est ce que je dis souvent, que les roues touchent la route, sinon on va nulle part.
C'est ça.
En tout cas, je te remercie infiniment,
c'est bon.
Martin. Et puis, je souhaite une longue et belle vie à Overdrive. J'adore ce titre.
Oui, ça vient des Pink Floyd, Interstellar Overdrive, en fait.
D'accord. Ok, ouais. C'est ça l'origine. Bon, et ben, tu as concrétisé ce qui était Interstellar. C'est pas mal.
C'est ça.
Et puis, donc, le podcast, il va être sur le forum.
D'accord.
Donc, si vous, auditeurs, vous avez envie de continuer la conversation avec Martin, je pense qu'il sera content de venir sur le forum, lire vos remarques et puis vos questions. Et donc, je mettrai le lien du fil du forum qui correspond à ce podcast. Ça permettra de continuer l'échange éventuellement par écrit.
Ça marche.
Merci beaucoup à toi. Et très bonne continuation.
Une bonne journée. Merci.
Salut, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outilsdumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outilsdumanager.com. À bientôt, au revoir. Alors, tu vois, je viens de faire un petit calcul. On a à peu près 3 millions de téléchargements du podcast et on a à peu près 890 avis sur le podcast. Bah en fait, ça fait que 0,03% de personnes qui, après avoir écouté un épisode, ont laissé un avis. Je trouve que c'est pas un super pourcentage, et je pense que vous pouvez être plus nombreux, quand un épisode vous plaît, à mettre un avis positif. Donc, surtout, n'hésitez pas, ça nous rend un énorme service, et ça nous fait super plaisir. Merci.